Chapitre 11. La traque. Holding my last breath, safe inside myself are all my source of you. Sweet raptured light, it ends here, tonight. Retenant mon dernier souffle, toutes mes pensées de toi sont à l'abri, au fond de moi. Douce lumière capturée, c'est la fin, ici, ce soir. Amy Lynn Lee. Les minutes se sont écoulées lentement. Le peu que nous pouvions supposer du mégalodon, si c'en était bien un, c'était qu'il devait avoir à peu près les mêmes caractéristiques qu'un requin. Un odorat très développé, des capteurs de variation de pression extrêmement sensibles et un appétit vorace. La plongée de la veille nous avait appris qu'il était par contre totalement indifférent à la lumière de nos torches. Autrement dit, tant que nous resterions immobiles, il ne nous détecterait pas. Le froid a commencé à devenir désagréable. J'ai fait signe à Charlie que j'allais me bouger un petit peu, en restant dans son axe de vision. Je me suis mis à palmer et à battre des bras, en faisant plusieurs grandes boucles au-dessus du plateau. À un moment, je me suis approché de son bord et j'ai regardé vers le bas. Le noir le plus total. Normal. Le fond devait se trouver au moins 200 mètres plus bas, voire 250. J'ai allumé ma torche. Le faisceau bleuté n'a pas changé grand-chose, égratignant à peine l'immensité du néant que je survolais. Je suis revenu vers le dôme où Charlie attendait. Il semblait ne pas être aussi sensible au froid que moi. Il était comme suspendu entre deux eaux, totalement inerte. Je voyais sa cage thoracique inspirer et expirer l'air lentement, profondément. Peut-être cédait-il d'une de ces techniques de respiration dont il m'avait parlé une fois, celle que les lamas tibétains lui avaient apprise. Drôle d'endroit pour se mettre en état de méditation. À moins qu'au contraire, ce ne soit le lieu parfait, isolé de tout bruit et de toute distraction, à la lisière de la vie et de la mort, et, qui plus est, en apesanteur. Que voyait-il au fond de lui-même? Et moi, que voyais-je? Que voyais-je? Je me suis tourné sur le dos, bras en croix, flottant à 50 centimètres au-dessus du fond. Très haut, le soleil faisait une petite tache à peine plus lumineuse à travers l'énorme épaisseur d'eau qui nous séparait de l'air libre. Claire devait être allongée sur le bord, toutes ses pensées tournées vers nous. Ou peut-être nageait-elle pour se rafraîchir et tromper l'attente. Autour d'elle et de nous, 100 mètres plus bas, l'immense cratère de 20 kilomètres de diamètre grillait sous les rayons du soleil, lui qui avait connu tant d'épisodes bien plus brûlants. Des milliers d'humains le parcouraient comme des fourmis agitées, poursuivant les chemins brouillés de leur destin mélangé, se croisant ou s'ignorant, et certains s'aimant. Au-delà des murailles de lave, la mer Égée, parsemée d'îles, s'étendait jusqu'aux 3 grands continents qui l'abordaient, où encore plus d'humains vivaient, naissaient, mouraient. Quelque part, très loin, Sibyl se demandait où j'étais. Pouvait-elle l'imaginer? Elle qui vivait sur une île, au milieu des terres, me voyait-elle en ce moment, au fond d'une mer, au milieu d'une île? Son visage doux et mystérieux était là, devant mes yeux fermés. Les traits de Claire sont venus se superposer. L'image de Claire a califourchon sur moi, les bras étendus et les seins gonflés de désir, en train de jouir comme elle l'avait fait avec Charlie. J'ai ouvert les yeux et je me suis remis sur le ventre. J'avais dérivé lentement à nouveau jusqu'au bord du plateau. Une idée m'est venue. Si nous voulions faire venir notre ami géant, il fallait l'attirer avec un peu plus que quelques abats perdus au milieu d'une masse d'eau phénoménale. J'ai ramassé à deux mains un petit bloc de lave de la taille d'un ballon de foot et je me suis mis à taper de façon régulière contre le sol. dans l'eau, le son se déplace 4 fois plus vite que dans l'air, et il porte beaucoup plus loin en raison de sa densité, 1000 fois plus élevée. Un requin n'a pas d'oreille localisée de part et d'autre de la tête, comme un mammifère. Il est tout entier une immense oreille, grâce aux capteurs répartis le long de son corps, du museau à la queue. Charlie m'a rejoint. Il a immédiatement compris. Saisissant une autre pierre, il a frappé le sol au même rythme que moi. Nous avons continué ainsi pendant 2 ou 3 minutes. Puis, il m'a fait signe d'arrêter et de revenir nous mettre à l'abri. Si le mégalodon surgissait de nulle part pendant que nous nous trouvions à découvert, au point exact d'où partaient les sons qui étaient censés l'attirer, il nous gobrait sans que nous ayons le temps de faire un geste. Une fois sous le dôme, j'ai eu une autre idée. J'ai empli totalement mes poumons. Puis, j'ai retiré l'embout de ma bouche et j'ai crié le plus fort possible, dans un grand dégagement de bulles. J'ai entendu distinctement Charlie rire à côté de moi, à travers ses tuyaux. Puis, il a fait de même pendant que je tirais à nouveau sur l'embout pour reprendre mon souffle. Soudain, il était là. Au bord du plateau, à moins de 15 mètres de nous. Aucun doute. Ce n'était pas un requin-baleine. Il n'en avait ni la silhouette, ni les motifs colorés sur la peau. En fait, il ressemblait exactement à un grand requin blanc, en plus massif, et surtout, en beaucoup plus grand que le plus grand connu. Nom de Dieu, il devait frôler les 20 mètres de long, et bien 6 mètres de haut, ailerons non compris. Le carcharodon, mégalodon, ne serait plus jamais pour nous un simple sujet de controverse entre plongeurs ou chercheurs. Il existait. Nous le voyions de nos yeux. Inutile de dire que nous ne faisions plus un bruit. J'ai commencé à porter très lentement ma main à la poche de la stab où je mettais habituellement mon appareil photo. Et puis, j'ai réalisé que je ne l'avais pas pris, à cause de la profondeur à laquelle nous allions descendre. Nos caissons étanches étaient des modèles standards qui résistent jusqu'à 50 mètres maximum. Rien à voir avec les équipements pro, qui supportent des pressions bien plus importantes, mais qui ne sauraient même pas entrer dans nos sacs à dos, tellement ils sont volumineux. Nous ne garderions de cette rencontre exceptionnelle que nos souvenirs. Nous saurions, nous, que le mégalodon vivait toujours, mais vraisemblablement, personne ne nous croirait. Nous n'aurions aucun moyen de le prouver. Raison de plus pour profiter encore plus intensément de ces instants éphémères. La superbe bête s'est déplacée avec une légèreté fascinante jusqu'au sac plein de restes de poisson qui semblait tout à coup minuscule à côté d'elle. Elle l'a aspiré comme on avale une cacahuète. Puis, elle s'est immobilisée pendant un bon moment. Oui, bien sûr. Elle devait dire que ça ne collait pas. Jamais une proie aussi minuscule et surtout aussi morte ne pouvait être la source des bruits qu'elle avait entendus, peut-être à plusieurs kilomètres de distance. Les vibrations provoquées par les pierres venaient d'un animal forcément plus gros. Et les cris que nous avions poussés ne ressemblaient en rien à aucune proie connue, aussi loin que devait remonter sa mémoire. D'ailleurs, quel âge pouvait-elle avoir? Un grand requin blanc vit une 30aine d'années, un requin baleine autour de 60 ans. À l'intérieur d'un même ordre, plus une espèce est de grande taille, plus sa longévité augmente. En tout cas, c'est vrai. Des requins comme des tortues d'ailleurs. Peut-être que ce mégalodon vivait là depuis 80 ou 100 ans. Et si tel était le cas, c'est que d'autres y vivaient aussi, à moins qu'ils ne s'accouplent ou naissent dans une région différente. Fascinant. Quelque part, ici ou ailleurs, des colonies entières de mégalodons continuaient à vivre et à se reproduire depuis des centaines de milliers d'années. Oh là! Il venait vers nous. Nous nous sommes figés complètement, arrêtant même de respirer. La masse monumentale de son corps a occulté tout notre champ de vision. S'il nous touchait, il nous bousculerait et sentirait que nous n'étions pas un élément du décor. Il pouvait tout à fait nous croquer juste par curiosité. Heureusement, le petit dôme de lave qui nous entourait le gênait. Il s'est arrêté à moins de 10 centimètres de nous, puis a reculé lentement. Dans un mouvement presque gracieux, il a fait demi-tour sur place. Sa queue, verticale, était désormais dressée devant nous, du moins ce que nous pouvions en voir. Elle devait frôler les 7 ou 8 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Il l'a agité de droite à gauche pour avancer. Le remous créé nous a jetés l'un contre l'autre et nos recycleurs se sont cognés bruyamment. En l'entendant, le mégalodon s'est tourné face à nous en moins de 2 secondes. Puis, il a disparu sur notre gauche. Nous avions de nouveau vu sur le plateau entièrement vide. Où était-il parti ? J'ai voulu m'avancer hors de notre abri pour jeter un coup d'œil, mais Charlie m'a retenu fermement et m'a fait signe de bien nous coller contre la paroi. À peine l'avais-je fait, que la gueule entrouverte du monstre s'est matérialisée devant nous. Il s'était mis sur le côté, ayant la même contrainte que tous les requins pour happer une proie, celle d'avoir la bouche en arrière du museau. Nous avons eu une vue terrifiante sur ses dents triangulaires démesurées, les plus longues faisant bien 30 centimètres de long. Il a tenté à plusieurs reprises de nous saisir, en claquant des mâchoires, mais à nouveau, les replis basaltiques l'ont maintenu juste assez loin pour qu'il échoue. Il a reculé de quelques mètres. Il n'avait pas l'air de vouloir abandonner. Le problème, c'est que s'il décidait de rester là suffisamment longtemps, nous n'aurions plus qu'à choisir entre mourir noyé ou dévoré. Certes, nous avions encore plusieurs heures d'autonomie, mais nous devions en conserver une bonne partie rien que pour la remontée et ses paliers, aussi fastidieux qu'indispensable. Notre salut est venu d'un banc d'une dizaine de grands thons rouges, apparu au bout du plateau pour son plus grand malheur. Le mégalodon s'est aussitôt jeté sur eux et en a happé plusieurs d'une seule bouchée. Nullement rassasié, il a ensuite pris en chasse les rescapés, disparaissant rapidement dans la nuit des grands fonds. C'était l'occasion idéale pour nous de nous éloigner le plus rapidement possible. Nous avions eu ce que nous voulions. Il était inutile de prendre plus de risques. Nous avons allumé nos torches pour nous inspecter mutuellement avant d'entamer la remontée. Malgré le choc, quand nous étions cognés, nos recycleurs semblaient parfaitement intacts. Aucune trace de fuite, pas même une éraflure. Au moment où j'allais éteindre ma lampe, le faisceau a accroché par hasard la plus hallucinante des visions. Sur la paroi qui formait le fond de notre abri, était gravé le même symbole que celui des médailles. Charlie s'est approché et a doucement passé sa main sur la gravure. Depuis quand était-elle là? Forcément, depuis une époque où la caldeira n'était pas encore envahie par la mer. Donc, au moins 3500 ans, peut-être bien plus. Le plateau où nous nous trouvions avait-il été une agora ou un lieu de culte à la déesse au serpent? Des vestiges plus nombreux se trouvaient-ils dans la fosse inaccessible qu'il bordait désormais? Des Atlantes avaient-ils parcouru cet endroit, insouciant, avant l'éruption qui allait leur coûter la vie et détruire leur civilisation? Charlie m'a tapé sur l'épaule et a fait le X de ses bras, puis le signe de la remontée. Il avait raison. Il fallait qu'on parte. Tout en surveillant de près les indicateurs des calculateurs des recycleurs, seuls à pouvoir nous donner les bons paramètres de remontée avec le mélange de 3 gaz que nos ordis ne pouvaient gérer, nous avons pris le chemin de la surface en restant le plus près possible de la paroi, à tout hasard. Si le mégalodon revenait, il valait mieux éviter de lui faciliter la tâche en nous trouvant en pleine eau. Durant la remontée, nous avons fréquemment regardé vers le bas, nous attendant à voir surgir le mégalodon à tout instant, comme s'il avait pu nous suivre à la trace. Nous avons commencé à nous détendre vraiment, une fois parvenus au niveau de l'ancre. Il nous restait largement assez de réserve avec nos recycleurs, Nous avons laissé les blocs d'air accrochés à la chaîne. Il nous suffirait de les remonter une fois à bord du Zod. À 30 mètres de l'air libre, nous avons gonflé les deux parachutes pour que Claire sache que notre tour était imminent et vienne nous prendre. Ils ont filé vers la surface. Nous avons senti très vite que quelque chose d'anormal avait dû se produire. Pendant les 10 minutes qui nous restaient à passer sous l'eau, à aucun moment nous n'avons entendu le moteur du bateau en train d'approcher. Nous avons enfin sorti la tête de l'eau et retiré nos masques. Au bout de la chaîne, il n'y avait que la bouée. Le Zod n'était visible nulle part, ni en mer, ni sur la côte proche. Où était passé Claire ?